Émission spéciale Cap PME sur BFM Business.
Bonsoir ou bonjour. On a vraiment eu des témoignages absolument formidables. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'en pense justement le politique. Est-ce qu'il est prêt à prendre des mesures? Est-ce qu'il va essayer de sauver la France? En tous les cas, c'est une tâche difficile. Mon invité, c'est donc Sébastien Martin, le ministre délégué en charge de l'industrie. Bonsoir Sébastien Martin.
Bonsoir à vous.
Alors, vous regardez votre cravate, vous avez vu qu'il n'y a aucun, il n'y en avait aucun avec une cravate.
Moi, je suis un peu old school.
Bon, d'accord, ok, donc vous avez le droit de la garder. Beaucoup de questions à vous poser plus sérieusement. J'ai croisé un entrepreneur tout à l'heure et qui me dit, vous recevez Sébastien Martin. Dites-lui de faire au niveau de la France ce qu'il a fait au niveau de Chalon. Parce qu'il a réussi à faire venir des entreprises. Il y avait Kodak qui fermait et il a réussi une alchimie, il a réussi à les faire venir. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir au niveau de la France. Vous voyez, vous avez la barre est assez haute. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, on voit qu'il y a des données qui sont difficiles, il y a des révisions de croissance à la baisse, il y a une crise économique, il y a un coût de l'énergie qui explose, il y a un nombre de faillites qui explose. Quelle est un peu votre vision, vous, de la situation au jour d'aujourd'hui ?
Déjà, vous avez dépeint une situation apocalyptique.
Bon, non, c'est factuel.
Non, mais qui explose. La situation, je ne vais pas vous dire que elle est simple parce que il y a plein d'éléments qui font qu'elle n'est effectivement pas simple, particulièrement depuis, on va dire, fin 2024. Moi, je me souviens très bien, à l'époque, vous avez parlé de mon expérience quand j'étais élu local à Chalon-sur-Saône. Je faisais le même genre de forum en tant que président de mon agglomération. Je rencontrais les chefs d'entreprise. Et en gros, jusqu'à fin 2024, le principal sujet des chefs d'entreprise, c'était comment on recrute. Mm-hmm. C'était pas il y a si longtemps. Ça veut pas dire que, bien évidemment, il faut nier la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On a une croissance qui s'est ralentie. On a une situation internationale qui s'est aggravée avec la crise de l'Iran. Et on voit bien, depuis notamment l'élection de Monsieur Trump qui a fermé le marché américain, ce qu'on appelle des volumes supplémentaires, des surcapacités asiatiques qui arrivent sur le marché européen et qui mettent en difficulté un certain nombre de secteurs industriels. À côté de ça, on a aussi eu des exemples, vous les avez eu autour de la table tout à l'heure, oui, de gens qui entreprennent, de gens qui y croient. Et j'ai beaucoup aimé quelqu'un qui a rappelé, n'oubliez pas de continuer à expliquer que oui, ce pays a une vocation industrielle. On ne peut pas croire qu'il y a un an et demi, le principal problème c'était comment on va faire pour recruter, on n'y arrive pas, et qu'aujourd'hui tout soit terminé. Moi je me bats contre ça tous les jours. Oui, la situation elle est compliquée, mais expliquer que tout est foutu parce que la situation est difficile en ce moment, c'est un non-sens. Parce qu'on ne va pas, on ne peut pas dans le même temps dire il faut amener nos jeunes dans les usines, il faut qu'ils reconnaissent les métiers industriels, il faut que, et puis dans le même temps dire tout est foutu, c'est pas vrai. Parce que c'est un combat de long terme. Pendant des décennies, on a dit qu'il n'y aura plus d'usines dans ce pays. Très bien, parfait, on a vu le résultat. Et maintenant, on veut que nos jeunes retournent dans les usines. Si on veut que nos jeunes retournent dans les usines, ça veut dire qu'il faut tenir sur le long terme. Et même si c'est difficile en même temps, il faut toujours fixer et se tenir le cap de l'objectif.
Oui, mais ce que disait, c'était Guillaume Gibault, le fondateur et le président du SLIF français, il disait qu'il y a une espèce, on n'aime pas l'industrie en France, on adore la tech, ici on est à la station F, on adore le digital, on adore les services, mais c'est presque un gros mot, l'industrie manufacturière. Donc il faut changer de mentalité. C'est ce qu'essaie de faire du reste certains lobbies pour l'industrie. On voit que c'est difficile en France.
C'est bien pour ça qu'il faut tenir le cap. Je veux dire par là que effectivement, ce pays, pendant des décennies, et d'ailleurs c'est pas forcément des politiques qui l'avaient dit, Monsieur Turuc qui raconte que la France sans oui. usine, c'est Monsieur Turuc, à ce que je sache, il était député, il n'était pas député, il n'était pas ministre, c'est un industriel
qui a dit
c'est très bien s'il n'y a plus d'usine dans ce pays. Non, je voudrais juste le rappeler des fois. Et qui a dit c'est très bien s'il n'y a plus d'usine dans ce pays. Bon, très bien. Moi j'ai 48 ans, 49 ans. Donc j'ai grandi plutôt dans toute cette période-là, dans toute cette époque-là. On a dit c'est pas grave. Et puis on a dit, les gamins, allez donc en fac de droit, allez donc faire du commerce et du marketing, allez faire de la santé, allez faire tout ce que vous voulez, mais surtout, n'allez pas dans l'industrie. Et puis maintenant, du jour au lendemain, on croit que, clac, par un coup de baguette magique, tout va s'inverser et que d'un coup d'un seul, les gens vont réaimer l'industrie de manière comme si c'était une grande déclaration d'amour. Non, il faut du temps.
Oui, oui. Il faut du temps. J'ai envie de dire simplement, on a quand même le président Macron, c'était quasiment sa première feuille de route de réindustrialiser la France. Ça fait quand même quelques années qu'il est là et que les chiffres sont là, je les ai devant moi. C'est la 2025 a été 2026, enfin 2025 est la pire année en termes de désindustrialisation. Bah, si vous regardez les chiffres, il y a 57 usines en moins en 2025. Et quand on regarde le solde net, ouverture, fermeture, d'accord, c'est plus 19, mais c'est des petits.
Je peux vous poser des questions ?
Oui, allez-y.
Voilà, d'accord. Entre 2018 et 2024, on a recréé des emplois industriels dans ce pays.
Ouais.
180 000 emplois industriels recréés dans ce pays. Par contre, entre 2005 et 2015, combien on a détruit d'emplois industriels ? Parce que vous dites que c'est la pire des années, l'année 2025. On a détruit plus d'un million d'emplois industriels dans ce pays. On a détruit plus d'un million d'emplois industriels entre 2005 et 2015 dans ce pays. 2018-2024, on a enfin inversé cette tendance.
Exact.
On a redonné, effectivement, et d'ailleurs, je veux dire, on faisait les mêmes plateaux il y a 2 ans et demi, c'était vive la réindustrialisation, c'est parti, c'est génial. Et donc, je veux dire par là que sur le long terme, il y a toujours des moments de haut et des moments de bas. Toujours. Il ne faut pas s'ultra-enthousiasmer quand ça va bien, il ne faut pas non plus dire que tout est foutu quand ça va mal. Parce que ce cap de la réindustrialisation, il n'est pas simplement nécessaire, il est indispensable à notre pays. Et ne croyons pas que ce pays n'est pas capable de faire beaucoup de choses.
Oui. Quelle est la part de l'industrie
On est autour de 10% du PIB.
On
est autour de 10% du PIB.
Donc, c'est là où...
On a stoppé, je veux le dire.
On reste un peu scotché.
Le phénomène, il a été stoppé à un moment. Et en ce moment... Quel est le visage de notre industrie ? Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. On a des secteurs industriels qui, en France, cartonnent. Dans le domaine de l'énergie, première filière de l'énergie autour du nucléaire, mais aussi de certains secteurs du renouvelable. Prenez le secteur de la défense et de l'armement qui cartonne également. Vous allez chez Alstom qui construit des trains, qui est un secteur qui cartonne également. Vous prenez le luxe, même s'il y a des difficultés liées au Moyen-Orient, c'est un secteur qui cartonne également. Puis vous avez des secteurs qui connaissent des grandes difficultés. La métallurgie, l'automobile, et puis aussi la chimie. Parce que ce sont trois secteurs qui sont extrêmement aussi ouverts à une concurrence internationale assez difficile. Je prends l'acier. Il y a des mesures de protection qui arrivent au 1er juillet. Et c'est heureux. Sur la chimie, on se bat aussi au niveau européen sur le sujet. Sur l'automobile, il y a la transition vers l'électrique, mais pas que. Il y a plein d'autres éléments qui expliquent aussi que ce soit un moment difficile. Parce que on vendait à peu près, il y avait 2 200 000 immatriculations en 2019. Aujourd'hui, fin 2025, on est à 1,6 million d'immatriculations. Ça veut dire qu'on a perdu à peu près 20% du marché. Sans doute qu'il y a une part vers est-ce que je vais vers la transition, est-ce que je vais vers l'électrique qui explique cela. Mais il y a d'autres éléments. Il y a aussi d'autres éléments qui expliquent cette difficulté de transformation du marché de l'automobile.
Oui, il y a quand même une dimension européenne qui n'est pas négligeable, vous êtes d'accord avec moi, Sébastien Martin, sur l'automobile. Des décisions qui ont été prises, quand même à marche forcée, fait qu'il y a une destruction d'emplois, notamment chez les constructeurs automobiles, mais aussi chez les sous-traitants.
Non, en 2020...
On n'a pas forcément mesuré l'impact.
De la transition vers l'électrique ?
Oui.
De la transition vers l'électrique ?
Aussi rapide.
En 2020, on vendait 1,2% de véhicules électriques. Oui. J'ai du mal à comprendre comment 1,2% de vente serait responsable de la chute globale du marché.
Ah non, mais c'est...
Il y a plein d'autres éléments. Il y a le coût des véhicules,
le fait d'arrêter
la montagne.
Le fait de mettre un coup près le 2035 sur les volets thermiques.
2035, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez dans une concession, vous pouvez toujours acheter un véhicule thermique. Personne vous oblige à acheter un véhicule électrique. Et d'ailleurs, j'ai plutôt l'impression qu'en ce moment, les gens ont envie d'acheter des véhicules électriques.
En ce moment, j'ai envie de dire merci Trump. Ça, c'est sûr qu'il y a une explosion. J'en parlais hier avec Aurélien. Ben oui, merci Trump, parce que grâce à cette crise qui est quand même terrible...
Moi, j'ai pas très envie de dire merci à Trump, quand même. Hein.
Je veux dire, tu veux montrer qu'il y a quand même un côté positif.
Du coup,
on se précipite, effectivement, vers des véhicules électriques.
Et puis, il y a aussi...
Le taux d'immatriculation est absolument incroyable.
Et il y a aussi une meilleure, comment dirais-je, technologie.
Ouais.
Et je le dis aussi, française, le véhicule électrique le plus vendu en France, il est fabriqué à Douai, et c'est la R5 électrique. Il n'est pas fabriqué en Chine. Pourquoi aussi ? Parce que la France est un des rares pays au niveau européen à avoir mis en place, outre les droits de douane qui, là, existent au niveau européen sur le véhicule électrique. On y reviendra sans doute tout à l'heure, parce que ce n'est pas la même chose sur les véhicules hybrides. Et avoir mis en place l'éco-score, qui fait qu'en France, quand vous avez une aide de l'État pour acheter un véhicule électrique, vous achetez un véhicule qui est made in Europe ou made in France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, je tiens à le préciser. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit le plus dans les rues ? Pas forcément des véhicules chinois électriques. D'ailleurs, je le dis au passage, je trouve un peu dommage dans une émission et dans un forum qui défend l'usine française, le Made in France, que ça soit partenaire BYD. Je me permets de le dire au passage parce que ça m'a un peu choqué en arrivant. Parenthèse fermée. Oui, c'est bien aussi qu'on soit tous raccord sur nos principes. Parenthèse fermée. Je le dis parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il ne faut surtout pas de véhicules électriques, alors qu'en réalité, qu'est-ce qui est en train d'envahir le marché européen ?
Personne ne dit ça.
Non, je le dis. Qu'est-ce qui envahit surtout le marché ? C'est plutôt des véhicules hybrides asiatiques que les véhicules électriques asiatiques qui envahissent le marché, parce qu'il y a et des droits de douane et l'éco-score en France qui font qu'on favorise l'industrie française automobile électrique.
Alors, une question quand même, Sébastien Martin. Si on, je ne sais pas, à la fin de votre mandat, dans un an, vous pensez qu'on pourra, vous aurez pu inverser la courbe d'industrialisation de la France ?
Alors, je ne vais pas faire du François Hollandisme sur les inversions de la courbe. Ça leur a pas réussi, voyez. Ce, par contre, moi, mon combat, c'est que ce cap-là, cette volonté politique exprimée, partagée. Tout à l'heure, vous allez recevoir des parlementaires de tous bords.
Oui, il y a même François Ruffin que je salue.
Salue les parlementaires qui sont ici. Tout le monde ne partageait pas. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait des débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Aujourd'hui, sur tous les bancs, tout le monde dit oui, ça a été une erreur par le passé, ce qui s'est passé. Tout le monde le dit. Et tout le monde dit oui, l'industrie est absolument indispensable pour notre pays. Et tout le monde dit aussi, effectivement, les formations scientifiques, les formations techniques, orienter plus de jeunes vers ces formations, c'est indispensable. Et tout le monde est en train de se rendre compte aussi que, contrairement à l'image d'Épinal que l'on avait, enfin, ou d'Épinal ou de Zola, de ce qu'était l'industrie, en réalité, chacune et chacun voit que l'industrie, c'est autre chose que cette image d'Épinal. Et surtout, arrêtons aussi un peu parfois de nous sous-estimer. Je parlais du véhicule électrique, c'était peut-être compliqué, mais en France, on est capable de faire des véhicules électriques. On est capable de faire des ordinateurs quantiques, qui est un des trucs les plus compliqués. On est sans doute un des pays les plus en avance là-dessus. J'étais la semaine dernière à Cherbourg.
Absolument.
Chez Naval Group. On m'a expliqué quand même que faire un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est l'objet technologique le plus compliqué au monde à faire. Le plus compliqué au monde à faire. Dans un aussi petit espace, vous mélangez et des technologies de défense, et des technologies du nucléaire, et des questions d'énergie, et des questions de... Il y a tout, aussi peu. Combien de pays au monde savent faire ça ? Combien ? La France, les États-Unis, la Russie, et il semblerait les Chinois. Avec les Chinois, on ne sait jamais exactement comment ça se passe.
Avec les Russes non plus.
Il y en a, et avec les Russes non plus. Oui. Mais il n'y a pas tant de pays que ça qui savent faire tout ce que nous savons faire. Il n'y en a pas tant que ça. Alors, le sujet, c'est bien évidemment de savoir protéger là où c'est nécessaire de protéger, c'est de savoir encourager là où c'est nécessaire d'encourager, c'est de ne pas être que dans les ruptures technologiques, je suis assez d'accord avec ça. France 2030 est très marquée par les ruptures technologiques. Je pense qu'on a aussi besoin de plus de soutien à la modernisation de notre tissu industriel
pour gagner en compétitivité.
Voilà. Oui. Et d'ailleurs, je vais annoncer avec les régions un volet de France 2030 régionalisé dédié au volet modernisation de nos outils industriels dans les territoires.
Vous allez revisiter un peu les objectifs de France 2030.
Je vais avoir avec les conseils régionaux, parce que je pense que les régions aussi ont des outils pour accompagner la modernisation de notre tissu industriel, un volet spécifique là-dessus, on a à peu près 200 millions d'euros qui peuvent être consacrés à ça, un volet spécifique pour la modernisation des outils industriels. Parce que, pourquoi je dis ça ? On est ici à Cap PME. Vous savez, dans notre pays, il y a plein d'outils qui existent. Quand on est une start-up, il y a plein d'outils qui sont là. Quand on est un grand groupe, il y a aussi des outils qui sont là et on sait s'en saisir. Mais vous êtes la PME industrielle qui est présente dans une sous-préfecture, une ville moyenne depuis des décennies, qui ne demande jamais rien à personne et qui en plus n'a pas forcément les moyens de faire des dossiers, etc. Pour elle, il n'y a jamais vraiment grand-chose. Ben moi, j'ai envie, vous me demandiez si j'ai envie de faire quelque chose d'ici la fin de ce quinquennat, la responsabilité qui est la mienne. J'ai aussi, envie d'envoyer le message à tout ce tissu de PME industrielles, de petites ETI qui font de l'aménagement du territoire.
Vous connaissez la réponse.
Qu'on est là pour eux.
C'est qu'il faut essayer de sortir de cet enfer technocratique ou bureaucratique. Il faut simplifier les procédures. C'est ça dont elle rêve, parce que tout est tellement compliqué que souvent, elle n'arrive même pas. C'est vrai en plus au niveau européen, c'est-à-dire qu'elles n'ont même pas accès aux aides parce que c'est trop compliqué. Elles n'ont pas un service juridique comme dans les grandes entreprises, vous voyez.
Donc, c'est bien pour ça que je me tourne aussi vers les PME. Je pense au partenariat avec les collectivités territoriales. On doit être encore mieux organisé. Vous avez parlé de mon expérience quand j'étais élu à Chalon-sur-Saône et quand j'étais président de l'agglo. Bah oui, j'ai fait sortir 10 usines de terre. Alors c'était peut-être pas plus simple à Chalon-sur-Saône qu'ailleurs, et pourtant on y est arrivé. Parce qu'il y a une question d'alignement et d'organisation. Il est indispensable que nous soyons mieux alignés et mieux organisés partout sur les territoires. Il y a encore trop parfois, et la CCI fait son truc, et l'agglo fait son truc, et la région fait son truc. Et les organisations patronales font leur truc. Il faut un meilleur alignement pour les chefs d'entreprise, pour les accompagner dans leurs projets, et beaucoup de territoires s'organisent face à ça. Ne passons pas notre temps à dire qu'il n'y a que des trucs qui ne marchent pas. Il y a aussi plein de territoires qui savent se prendre en main, s'organiser. Pas partout, c'est parfois plus compliqué, on n'a parfois pas la même ingénierie, on n'a pas toujours les mêmes moyens, mais il y a beaucoup de gens qui se prennent en main et qui arrivent à le faire.
Toute dernière question, ça fera le lien avec la table ronde suivante, qui est autour de... Est-ce que les patrons et les politiques peuvent ensemble relever la France ?
Oui.
Vous pensez que c'est possible ?
C'est même indispensable.
Parce que les politiques, ils connaissent pas beaucoup l'entreprise, et j'ai envie de dire, même si ici on est à CAPME, que c'est aussi un peu l'inverse.
Vous dites qu'il y a plein de politiques qui connaissent pas l'entreprise.
Je connais de PME.
Le PME.
Oui.
Ben, écoutez...
De politique.
C'est ce que vous avez dit.
Oui, excusez-moi.
C'est ce que vous avez dit. Bon, moi, il se trouve que je connais aussi plein de politiques, élus locaux ou même parlementaires, qui connaissent le monde de l'entreprise, qui visitent régulièrement des entreprises, qui dialoguent régulièrement avec des entreprises. Et c'est vrai que la confiance, c'est pas facile à construire. Je vous fais part de ma propre expérience. Au début, lorsque j'ai été élu, je voulais absolument que monde politique dans mon territoire et monde économique, nous allions ensemble. Parce que vous ne pouvez pas attirer dans votre territoire si vous n'êtes pas unis et si vous n'avez pas des porte-parole que sont les chefs d'entreprise. Et donc cette confiance, il faut la créer. Et je me souviens, au début, j'organisais des rencontres et des dîners à quelques chefs d'entreprise. Ils me demandaient, mais pourquoi vous voulez nous inviter ? Mais juste parce que je pense qu'on a besoin de se parler. Et après, on a créé la confiance. Et quand vous créez la confiance, vous pouvez avancer. Et je sais qu'au niveau national, il y a aussi des enjeux.
Merci beaucoup, Sébastien Martin. On va essayer de se parler. Merci beaucoup, Sébastien Martin. Donc, le ministre de l'Industrie était notre invité. Il y croit.
Émission spéciale CAPME sur BFM Business.
Vous êtes bien dans toujours à CAPME, à la station F, où on va parler de politique et d'entreprise, et puis on va essayer de voir si on peut, s'ils peuvent, ceux qui sont autour de moi, relever ensemble la France. Je vais peut-être commencer par les chefs d'entreprise qui sont à mes côtés. Marie Sermadiras, entrepreneuse, dirigeante, investisseuse. Bonsoir Marie, merci d'être avec nous.
Bonsoir Edwige.
Voilà, vous avez un parcours un peu incroyable. Vous êtes vous avez été membre du comité exécutif de L'Oréal et puis vous dirigez une entreprise.
Alors pas de L'Oréal malheureusement, mais d'une des divisions de L'Oréal. Et j'ai créé plusieurs startups et j'en ai repris, donc entrepreneur au fond du fond.
Voilà, et avec un S donc. À vos côtés, Jean-Philippe Cartier qui est fondateur de H8 Invest. Bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir Edwige.
Bonsoir. Alors vous êtes investisseur, je crois que vous avez une quarantaine de participations, c'est ça ?
Je suis entrepreneur avant tout. J'ai créé une entreprise il y a maintenant plus de 30 ans, que j'ai revendue. Et depuis, via mon holding personnel que je dirige, j'investis dans des tas de secteurs d'activité qui vont de la restauration, l'hôtellerie de luxe.
Et voilà, vous avez décidé...
L'IA, plein de choses.
Oui. Et vous avez décidé de vous mettre un doigt de pied en politique, non ? On peut dire ça comme ça ?
Un doigt de pied en politique, non, parce que juste, encore une fois... quand on entend tout ce qu'on entend, on est obligé, nous, chefs d'entreprise, d'intervenir dans le débat dans le cadre de l'échéance 2027, puisque on a des entrepreneurs formidables. Vous les avez interviewés il y a moins d'une demi-heure et on a des politiques qui sont beaucoup trop souvent déconnectés de nos réalités. Donc je pense pour la première fois que tous, d'ailleurs, on le voit à travers des tas de mouvements qui sont en train de se créer, on veut absolument faire partie du débat pour que l'économie devienne vraiment un acte un axe extrêmement fort de l'enjeu de 2027, peu importe quel sera le candidat final qui finira par gagner cette élection. Donc pour peser, il faut parler et prendre la parole, parce que évidemment, on a, Marie et moi-même, puisqu'on travaille sur les mêmes idées, d'autres choses à faire à cette heure-ci, vous imaginez bien.
Ouais. Vous êtes plutôt libéral, tous les deux, on peut dire ça?
Bah, plutôt libéral.
Non, c'est juste comme ça, on sait.
Il y a des idées que je partage de
D'où
M. Ruffin.
D'où vous parlez, oui.
Bah, voilà, parce oui. que non, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. On peut être libéral, et ça veut dire quoi? Vouloir de la liberté, vouloir pouvoir créer facilement, entreprendre facilement. Mais on veut aussi vivre dans un monde social et qui permette de défendre nos salariés. Mon combat, juste pour finir, principal, c'est de pouvoir augmenter, payer mieux nos salariés. C'est avant tout notre sujet numéro un d'entrepreneur de PME.
Eh bien, ça tombe bien, on va en parler, évidemment. Alors, maintenant, les politiques. Alors, il y en a trois face à vous. Moi, je suis au milieu. On va voir, juste à côté de moi, François Ruffin, député de la Somme. Bonsoir ou bonjour.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Candidat éventuellement à l'élection présidentielle?
Candidat, il y a deux candidats à gauche à l'élection présidentielle aujourd'hui. Il y a Jean-Luc Mélenchon et moi.
D'accord, ok. Donc il est candidat, donc c'est bon. Alors vous, votre fête gloire, puisqu'on parle d'entreprise, c'est ce fameux film. Ça fait tout juste 10 ans, c'est ça, hein?
Tout à fait.
Ouais. En 2016, Merci Patron. Donc c'était sur Bernard Arnault. J'ai envie de dire, c'est ça en tous les cas qui, dans l'univers de l'économie, c'est ça qui vous a rendu célèbre, mais aussi en France.
Derrière le mot patron, enfin vous savez, le mot patron, c'est comme le mot poisson, dedans il y a les requins et il y a les sardines, et je confonds absolument pas les grands patrons de firmes multinationales telles LVMH et le patron de PME dans mon coin à Amiens.
D'accord, comme ça. Christine Lavarde à vos côtés, sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice depuis 2017. Vous êtes ingénieure dans le corps des ponts et chaussées. Et alors moi, surtout, ce que j'ai regardé, vous faites du triathlon. Vous êtes vice-championne de France par équipe sur le format longue distance. Vous avez fait l'Ironman de Roth. Bon, bref, vous êtes une championne toute catégorie.
Ben voilà,
sur la durée,
exactement.
Hein, je pense que le long terme.
L'éthique sportive a beaucoup à apprendre au monde de l'entreprise et au monde de la politique, mais je voudrais aussi dire que les chefs d'entreprise savent aussi s'engager en politique. Et un exemple, moi je suis élue aussi locale à Boulogne-Billancourt. Aux dernières élections municipales, on a deux chefs d'entreprise qui nous ont rejoints, dont Jules Simian. Donc c'est un hasard puisqu'il était là juste avant. Et en fait, ils ont beaucoup à nous apprendre, parce que gérer une collectivité, c'est comme gérer une PME. Et donc finalement, si j'ai pas une carrière dans l'entreprise, j'ai l'habitude d'en côtoyer. J'ai été très heureuse la semaine dernière de passer plus de 2 heures à voir les prix des entreprises innovantes des Hauts-de-Seine. Donc on n'a pas forcément ce passé, mais pour autant on a des liens naturels entre les politiques et les entreprises, notamment les petites, qui sont la richesse de nos territoires.
Alors, on verra ça tout à l'heure. Alexandre Loubet, vous êtes vous député Rassemblement National du Tarn-et-Garonne. Bonsoir. Ah bon, pas du
tout. De la Moselle.
Ah, mais la plus, oui, pourquoi?
Terre d'industrie par excellence.
Mais absolument, de la Moselle, tout à fait. En plus, terre d'industrie, oui, enfin, il faut le dire vite, parce que c'était vrai, c'est un tout petit peu moins vrai maintenant.
Sans laquelle jamais la France n'aurait connu l'essor économique qu'elle a pu avoir.
Alors, est-ce que
c'est reste une terre d'industrie, puisque j'ai l'honneur d'avoir dans ma circonscription l'une des plus importantes plateformes chimiques de France, la plateforme de Carlin, dont je salue les industriels, notamment.
Est-ce que vous avez déjà fait un stage en entreprise?
Oui, je vous remercie, et vous?
Non, oui, moi oui, beaucoup, oui, oui.
De manière très concrète.
Puis en plus, moi je travaille dans une entreprise, mais c'est pas tout à fait la même, je suis d'accord, c'est pas de l'industrie.
Étant donné que vous avez présenté les autres politiques, j'ai eu le plaisir de mener pour le groupe que je représente, le Rassemblement National, une commission d'enquête sur les freins à la réindustrialisation de la France, qui a duré près de 5 mois, avec l'audition de près de 147 personnalités, issues de tous les horizons, à la fois des acteurs industriels comme les acteurs des pouvoirs publics ou même des représentants de start-up, afin d'identifier les principaux freins à la réindustrialisation de notre pays, à la relance économique. Et j'ai la conviction, pour répondre au sujet de cette table ronde, politique et milieu économique doivent absolument, impérativement avancer de pair. Et il revient même aux politiques, non pas de se substituer au monde économique, mais bien de créer les conditions de réussite du monde économique.
Alors moi, ce que je propose, c'est que j'ai posé la question aux deux chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils attendent des politiques, notamment pour l'élection présidentielle, en quelques minutes, hein, très très rapidement. Et après, je vous demanderai, vous, qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'après tout, est-ce que l'entreprise, quel rôle vous voyez pour les entrepreneurs dans le cadre de cette campagne présidentielle? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la France? À vous, Marie.
Alors moi, je pense qu'il faut essayer de s'inspirer au maximum des entreprises et des entrepreneurs. au quotidien, c'est-à-dire un entrepreneur a besoin d'une vision et on a l'impression que ces dernières années, on n'a pas eu une vision très claire de la direction dans laquelle on allait. Et qui dit vision, dit plan, dit pilier stratégique, dit arbitrage et dit budget. Et ce sont des choses qui nous ont beaucoup manqué, j'ai l'impression, ces dernières années. On a l'impression qu'on ne fait pas d'arbitrage, qu'on a envie de satisfaire, de cocher toutes les cases plutôt que de renoncer à certaines choses. On a l'impression que dans la case budget, investissement et dépenses sont mélangés. Un patron qui ferait le mélange entre les deux aurait un véritable problème. Et surtout dans les temps difficiles, on a tendance à couper les dépenses pour essayer d'appuyer sur les investissements. Donc, j'ai l'impression qu'on fait le contraire au niveau national. Et puis c'est surtout comprendre que l'économie, c'est pas que des grands agrégats économiques, c'est pas seulement des grands chiffres comme le chômage, la dette, c'est évidemment ça, mais c'est aussi de la microéconomie et un terrain de PME qui a vraiment besoin en effet de réconcilier ses travailleurs et ses entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où il y a de moins en moins de confiance entre les entrepreneurs, leurs équipes et puis malheureusement les politiques.
À vous. Trop pour deux, vous avez vu.
Jean-Philippe.
C'est un peu ce que dit Marie, c'est un peu dans le même sens. C'est comment on peut réinventer un espèce de rêve français. C'est-à-dire que depuis 35 ans, moi j'ai commencé à entreprendre, j'avais 17 ans comme Jules, chère Christine, qui fait partie du mouvement que j'ai monté, qui s'appelle le pouvoir de l'action. Donc on aura la chance de le côtoyer tous les deux. Il travaille à nos côtés, donc de 7 à 77 ans, nous aussi on travaille avec des plus jeunes. En fait, il y a 35 ans, l'idée c'est pas de taper, c'est pas l'idée de se... Il y a 35 ans de décisions... selon nous, de plus en plus mauvaise pour la partie économique. Et quand j'entends même des jeunes comme Jules qui pensent régulièrement à partir ou à bouger, mécaniquement, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai été en Chine, j'invite vraiment tous les hommes politiques à y passer 7 jours hors caméra, hors champ pour aller comprendre. On y était il y a 15 jours, Jules était avec nous. La seule information que je recevais sur mon WhatsApp français, c'était « Allons-nous pouvoir travailler le 1er mai en France ?» Donc il y a quelque chose qui ne va plus du tout. On est d'accord que le constat des 7 dernières années, 8, enfin bientôt 10, n'a pas été mené tel qu'on pouvait l'imaginer. Et on est d'accord que les 20 prochaines années vont être tellement importantes. Moi, j'ai deux enfants de 4 et 12 ans. Il faut qu'on est obligé d'avoir des politiques qui intègrent notre volonté, à savoir celles qui nous permettent de travailler plus simplement et qui entendent les... J'aime pas le mot revendication, mais les problématiques... Et je vais juste rebondir, M. Ruffin, sur le mot patron. Je sais que c'est, je vous le dis pas de manière désagréable, mais il y a un peu une fixation. Moi, j'appelle ça très souvent les créateurs d'emplois. Voilà. Très, très, très souvent. Alors, vous avez une fixette sur Bernard Arnault. Moi, j'aimerais qu'on en ait 20 en France. Ça, c'est notre petit point de désaccord. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans tous les programmes politiques que je vois, j'étais avec une femme politique assez connue, pas loin d'Edouard Philippe hier, je ne vois aucune forme de vision aujourd'hui dans ce que je vois, et je ne vois aucun projet qui nous permette, soit par la retraite à 62 ans, soit par des votes de budget de LR extrêmement dangereux. Donc je pense, avec Guillaume Gibault qui parle mieux que personne de la réindustrialisation française, on avait un parfait ministre de l'industrie, on a tout ce qu'il faut... il faut s'inspirer du monde économique.
Juste un mot très rapide, parce qu'après j'ai quand même la parole aux politiques. Est-ce que vous parlez quand vous parlez au nom des entrepreneurs, mais justement, est-ce que vous parlez aussi bien au nom des grandes entreprises, des entrepreneurs qui dirigent des groupes du CAC 40? Parce que souvent les politiques opposent les PME et les grandes entreprises. En tous les cas, ils font un distinguo assez fort.
Mais vous savez, c'est mal connaître l'entrepreneuriat français, parce que les PME françaises, c'est près de 7 à 8 millions d'emplois.
Oui.
Enfin, 90% des gens avec qui on parle, c'est des gens qui ont des entreprises de 7, 8, 10, 15, 20, 40, 80 salariés. Alors, on peut parler de Bernard Arnault toute la journée ou de Patrick Pouyanné, qui n'est pas le propriétaire de son entreprise, Patrick Pouyanné. Mais nous, ce qu'on vit au quotidien, quand on recroise nos informations, on vit tous la même chose. Des complexités de recrutement absolues, un coût du travail exorbitant, une volonté de payer plus les gens, c'est strictement impossible.
François...
Et un système dans sa globalité qui fonctionne plus.
François Ruffin. Qu'est-ce que vous avez entendu? Je trouve qu'ils plaident bien leur cause. En tous les cas, ils expriment ce qu'ils attendraient de politique. Est-ce que vous comprenez leur message? Et après, vous avez vos réponses.
D'abord dire que moi, j'ai été un petit patron d'entreprise. J'ai fondé ma boîte, mon journal, avec mon livret A.
Paquet.
Et j'ai le mené pendant 20 ans. Et à la fin, j'avais 7 salariés. Donc je sais ce que c'est que de recevoir du CICE. Je sais ce que c'est d'avoir un contrôle URSSAF. Je connais ça par cœur et de l'intérieur. Dire que dans ma carrière de journaliste, chaque fois que j'ai eu la possibilité de rencontrer un patron, un entrepreneur, eh ben je l'ai fait. Pourquoi ? D'abord par curiosité de voir le monde avec un autre regard que le mien, et ensuite parce que je savais qu'il y avait en fond une alliance objective. Ma bataille, c'est la bataille de l'industrie. Ma bataille, c'est le retour de secteur industriel dans notre pays. Et dès la première rencontre que j'ai eue, par exemple, avec Laurent Bernard, qui était le patron de l'UEMM, de la métallurgie dans la Somme, et de l'Office du Piston français, et qui me dit, voilà, regardez, j'ai des ordres de mes clients, donneurs d'ordre, Faurecia, Valeo, qui me disent, maintenant, faut partir dans les pays de l'Est et faut fermer boutique ici. Et bien, je comprends l'alliance qu'il peut y avoir entre les patrons de PME qui ont à subir ça et l'emploi industriel, l'emploi ouvrier que je défends dans un territoire comme le mien. Et à mon sens, vous voyez, vous avez eu un président pro-business, vous avez eu un président Startup Nation, vous avez eu un président banquier d'affaires pendant 10 ans. Et vous mesurez la déception à l'arrivée. Avec le taux la part de l'industrie dans le PIB qui est passée sous les 10%.
Non, qui n'est pas passée sous les 10%, qui est juste au niveau des 10%.
Elle est passée sous les 10%. Avec une dette publique de plus de 1 000 milliards d'euros et sans même que ça soit de l'investissement. Avec aujourd'hui une défaillance, un taux de défaillance des petites entreprises qui est gigantesque. Et donc, je veux vous le dire. Je considère que ceux qui voudraient faire du Macron après Macron, du super Macron, du Macron en grand, et avoir un discours plus libéral, au fond, je ne pense pas qu'ils vous rendent service. Et je pense que des gens qui viennent dire, aujourd'hui, il y a besoin de grandes règles, il y a besoin d'une vision.
De plan, comme disait...
Il y a besoin d'un plan. Il y a besoin, je dirais, d'un horizon. Et je pense que le pays, il meurt matériellement quand on voit que les Français sont maintenant plus pauvres que la moyenne européenne, produisent moins que la moyenne européenne, et qu'évidemment il y a pour moi un grand défi, le défi productif dans notre pays, on est passé l'inégalité dans notre pays est maintenant au-dessus de la moyenne européenne, donc il y a un problème matériel, mais à mon sens le problème presque pire c'est le problème spirituel. Chez mes grands-parents, il y avait une assiette en porcelaine dans laquelle il était marqué « S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Et Saint-Exupéry. Et à mon sens, ce qui vaut pour un couple vaut aussi
François
pour une
Ruffin
nation.
François Ruffin qui cite Saint-Exupéry.
Et sans difficulté, mais si vous saviez comment j'embrasse large, parce que la France, elle est grande et elle se regarde pas sur un périmètre étroit. Mais ce qui vaut pour un couple vaut aussi pour une nation. De se dire, voilà, il nous faut un horizon commun. Nous avons des défis à relever aujourd'hui. Le défi productif, pas de grand pays sans grande industrie et sans grande agriculture. Le défi démographique, de plus en plus de personnes âgées dont il faut s'occuper. Le défi, enfin, climatique, on le voit aujourd'hui avec la canicule, qui suppose de tout transformer, logement, déplacement, culture, agriculture, industrie, énergie. Je termine. Oui. Et tout ça, ça repose sur une chose qui est le travail. Qui est le travail.
Je suis travailleur.
Le travail, et dans ce travail, je comprends à la fois le travail des salariés, des fonctionnaires, de l'hôpital, des écoles, et des entrepreneurs. Et je sais combien notre pays ne se relèvera pas par des grandes décisions des ministères, mais se relèvera pas aussi de l'initiative privée d'en bas.
Parce qu'après, c'est
élus locaux, associations et entrepreneurs.
Par contre, je vais vous dire un truc, vous avez bien fait de changer de carrière, vous êtes excellent dans votre domaine, et vous êtes en... complètement aligné avec le fait que vous avez un grand talent politique. À aucun moment...
Je pense que j'avais un grand talent journalistique,
mais je vais vous dire un truc.
À aucun moment,
à chaque fois que vous parlez des dirigeants, quels qu'ils soient, on parle du macronisme. Pour rappel, Emmanuel Macron est quand même un homme politique depuis un certain nombre d'années, était technocrate. On est deux patrons de PME. Alors à chaque fois, il y a toujours le grand discours, la réindustrialisation, le macronisme, les pro-business. Nous, on vous dit strictement l'inverse. On vous dit, en fait, de droite comme de gauche, on voudrait juste pouvoir travailler. En fait, vous connaissez tous le monde de l'entreprise, mais vous ne la connaissez pas du tout. Moi, j'en ai 40. 40, je les ai créés. J'ai eu mon PEL, comme vous, avec ma maman, infirmière, comme vous, peut-être. Pour aller, chaque fois, faut arriver vers le côté perso de la vie qui montre qu'on a une histoire un peu compliquée. Et ma maman, en plus, en ayant payé des millions d'euros d'impôts, pas comme vous, elle est morte à l'hôpital public pendant 7 heures d'attente, il y a exactement 1 an et demi. Et ça m'a donné envie de m'engager d'autant plus en me disant comment on a pu en arriver là. Donc, le macronisme des 10 dernières années, on aura au moins un point commun sur le fait que c'est pas une extrême victoire pour le pays France. On a une énorme différence, je termine, on voyage beaucoup. Ça nous permet de comprendre ce qui se passe ailleurs. Donc nous, la seule chose qu'on demande, c'est assez simple, c'est d'écouter ceux qui savent. Parce que le problème actuel du politique, c'est qu'ils n'écoutent pas ceux qui savent. Je pense que vous n'êtes pas arrivé il y a une demi-heure, c'est très dommage, il y a eu 4 entrepreneurs.
Si j'étais là, j'étais dans la salle et j'ai entendu les entrepreneurs auparavant, du slip français, des fonds d'investissement. J'ai discuté avec eux, avec personne à la sortie.
Je pense que vous avez compris qu'on avait des très bons entrepreneurs et entrepreneuses, et que redresser ce pays, c'est quelques mesures pas très compliquées sur la partie économique. Je ne vais pas sur les autres. Après, je vous laisserai parler, pardonnez-moi. Oui. Donc j'espère, moi je considère, moi ma tribune, elle part d'une sortie où j'ai dit je me bats ou je me barre. C'est qu'à un moment donné, on ne peut plus voir tout le monde partir et regarder le train qui passe. Ce n'est plus possible. Il faut que nos politiques, de droite comme de gauche, le comprennent. Christine dans l'intérêt du pays.
Christine Lavarde et après Alexandre Loubet. Et après, c'est Marie, alors, pour faire tourner le micro, qui répondra.
Alors, juste, je ne sais pas si j'ai le droit de poser deux questions à mon voisin. Ah, mais je l'ai écouté avec attention. Je pense qu'il a oublié de dire qu'il s'est opposé au pacte Dutreil et qu'il était prêt à le supprimer. Qu'il a porté la taxe Zucman, dont on sait bien qu'une des conséquences, si elle était appliquée, serait dans entraîner la vente de parts des entreprises parce qu'on confond la richesse potentielle qui est liée à la valorisation boursière d'une société, quelle que soit sa taille, et la richesse réelle. On a bien vu dans des mouvements antérieurs que la richesse potentielle, elle peut s'écrouler d'un coup si jamais la technologie ne perdure pas. Donc voilà, je lui adresse ces deux questions. J'aurais pu être d'accord quasiment avec tout ce qu'il a dit, parce que je suis d'accord, comme lui, notre vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il faut revaloriser le travail, notamment pour avoir un narratif, un récit, pour pouvoir faire comprendre aux Français que c'est dans leur intérêt qu'il faut prendre un certain nombre de mesures, qui seront peut-être pas agréables à court terme, mais qui vont permettre de redresser ce pays sur le long terme. Parce que j'ai bien aimé quand vous avez parlé de vos enfants. Moi aussi, j'ai des jeunes enfants. Et tous les jours, je suis en train de me dire, on va leur léguer 3500 milliards de dettes. Tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, c'est finalement une dette qu'on leur lègue. On fait juste que reporter à plus tard les efforts qu'on ne veut pas faire. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai porté des mesures pour aller diminuer les abattements sur les retraités aisés. Ça peut vous paraître bizarre. Je suis de droite. Et ben, pourtant, oui, je le pense. Parce que il faut vraiment qu'on pense aux générations futures. Et pour vous dire... Pas plus tard qu'hier, j'ai beaucoup travaillé sur la question du financement des PME. Et on a un vrai problème aujourd'hui. Comment se fait-il que le PEA-PME soit accessible uniquement à 4500 entreprises ? Il n'y a pas que 4500 PME dans notre pays. On a tellement réduit les critères d'éligibilité qu'on en a complètement dénaturé l'objet. J'entendais aussi des structures de financement avec lesquelles je travaillais, qu'elles ont besoin de visibilité de long terme sur la trajectoire du pays pour pouvoir attirer des placements et des fonds. Quant à l'instant, j'ai entendu le ministre nous dire que dans l'enveloppe de France 2030, on allait faire des réallocations pour créer des dispositifs régionaux. Mais en fait, philosophiquement, on se trompe. France 2030, à l'origine, c'était créé pour avoir des crédits...
Des structures technologiques.
Non, justement. Et surtout, c'était la suite des investissements d'avenir. Et les investissements d'avenir, gardons ça en tête, c'était des crédits extra-budgétaires qui devaient échapper à la contingence du politique et des décisions. On est en train de faire complètement autre chose. Quand on réalloue comme ça et qu'en fait on retravaille dans l'enveloppe fermée, quand le président de la République annonce 2 milliards sur l'IA, alors qu'en fait c'est que du recyclage et que c'est un moyen d'aller chercher certains projets plutôt que d'autres. Et qu'est-ce qui se passe sur France 2030 ? Objectivement, c'est ce qui fait l'objet de toutes les coupes budgétaires en fin d'année.
Je vous dis juste un truc, Christine. Pardon, Marie.
Oui, parce que
France 2030, je connais à titre personnel deux entreprises qui ont touché 7 millions d'euros qui sont en dépôt de bilan. Il n'y a eu aucun contrôle de fait et leur business model est mort. Voilà. On parle de 14 millions d'euros, elles vont vivre dessus pendant 3 ans. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est compris. Je reviens sur la holding et le financement. On oublie un paramètre. Moi, j'ai des millions d'euros investis dans les PME françaises. J'étais avec 3 députés sur une de vos émissions sur BFM, je ne sais plus laquelle, un samedi soir. Personne ne connaissait le fonctionnement de la holding. Personne. On s'est fait taper dessus pendant 8 mois. Vous connaissez le réemploi. 3 députés sur 3 ne savaient même pas de quoi on parlait. L'obligation de réemployer l'argent, vous savez, c'est pas on le garde pas chez nous, on le compte pas tous les matins en ce moment. L'obligation de réemployer l'argent qu'on a gagné par notre travail. Je sais pas si ça vous dit. Donc
alors,
je veux juste exprimer un point là-dessus.
Oui.
C'est toujours un peu technique parce que vous dites que,
mais je
les gens ils veulent de
aussi.
La simplicité. Oui. On veut, c'est simple. Et si on doit le défendre nous-mêmes, on le défendra nous-mêmes. On veut que le travail coûte moins cher. On veut pouvoir mieux payer les gens. On veut pouvoir les faire travailler plus simplement.
Il y a 3 points
c'est pas très compliqué.
Jules
vous l'a expliqué
vous,
très clairement
ça,
tout à l'heure en disant
après.
On aimerait que chaque dirigeant de PME qui monte sa première entreprise puisse avoir une exonération totale sur le premier emploi. Des choses basiques. Quand on voit les dépenses, quand on voit les dettes abyssales, le train de vie avec les gyrophares en permanence, et je donnerai pas l'exemple, j'en connais 40 parce que j'en connais beaucoup de votre environnement.
Je suis en vélo, donc les gyrophares et tout ça.
Non mais je vous dis, il faut qu'à un moment donné, l'exemple doit prévaloir. Et il faut comprendre que ceux qui gagneront en 2027, vous devrez faire avec ceux qui font tourner la boutique. Et ceux qui font tourner la boutique, c'est les entrepreneurs, femmes et hommes françaises. Et ça, c'est la base.
À mon avis, il faut aussi que vous fassiez une conversion comme celle de François Ruffin, hein, parce que vous n'êtes pas mauvais aussi. Ah, c'est prévu, bon d'accord, ok. Alexandre Loubet, député de Moselle, donc. Enfin, je vous passe la parole. Vous, comment est-ce que vous avez répondu aux différentes interpellations?
La France manque d'une vision économique, d'un véritable cap. On l'a bien vu avec le saupoudrage des aides à travers le plan France 2030. On le voit bien avec les altermoiements, les va-et-vient, par exemple sur la question du nucléaire, et je pourrais donner beaucoup d'autres exemples. Donc il faut, un, se doter d'une stratégie nationale de réindustrialisation, de relance de la croissance économique. Deux, se donner les moyens de ses ambitions. Un, relancer la croissance économique par une stratégie. Cette stratégie, à mes yeux, elle doit reposer sur trois impératifs. Premier impératif, c'est celui de puissance. C'est-à-dire qu'il faut développer les innovations de rupture pour réussir dans la mondialisation, sans quoi on loupera le train, justement, la technologie, de la course technologique dans le monde. Deux, après la puissance, l'indépendance. Parce que aujourd'hui, en France, malheureusement, on se retrouve avec un déficit commercial dramatique de près de 70 milliards d'euros l'année dernière. Il faut développer les filières de substitution aux importations sur le sol national lorsque c'est possible et sécuriser les chaînes d'approvisionnement de nos industries essentiellement stratégiques. Trois, il faut moderniser l'appareil productif. C'était d'ailleurs l'une des conclusions de la commission d'enquête que j'avais menée en critiquant le plan France 2030, dont l'intention initiale est tout à fait louable, hein, d'aller soutenir évidemment les innovations de rupture. Mais il ne faut pas oublier ce sur quoi reposent les deux tiers du potentiel de réindustrialisation de la France, c'est-à-dire nos PME et nos ETI. Pour s'en donner les moyens, trois leviers essentiels. Il y en aurait beaucoup d'autres. Premier levier, revoir les politiques d'achat public, justement en libérant les règles de la commande publique. Il faut assumer de favoriser le Made in France, la préférence nationale et la préférence européenne, mais la vraie, pas celle qui est en train de nous vendre la Commission européenne actuellement. Oui. Deux, si je peux me permettre, Madame Chevrillon, deux, il faut libérer les financements nécessaires à notre économie pour réindustrialiser la France de 9 à 15% du PIB en 10 ans, ce qui semble très difficile, voire impossible. Il faudrait 20 milliards d'euros par an. Ça représente à peine.
Et trois, c'est qu'on puisse vous répondre.
Ça représente à peine 1% de l'encours de l'assurance vie et du PER. Troisième point, un véritable choc de compétitivité pour créer les conditions de la réussite des entreprises. D'abord en baissant la fiscalité de production et en renforçant le pacte Dutreil. Ensuite, en rétablissant un prix français de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, les entreprises paient une électricité qui est 2,8 fois plus chère que ce qu'elle nous coûte à produire en France. C'est un scandale.
Oui, mais c'est quand même moins cher d'Europe.
Trois, un véritable chantier de simplification. Non, faut, je réponds juste après. Oui, oui. Un véritable chantier de simplification normative. Et à ce titre, Marine Le Pen et Jordan Bardella nous ont demandé de faire le tour de l'ensemble des filières professionnelles.
Alors, on n'est pas là, on n'est pas complètement en campagne présidentielle.
C'est pas nous,
si vous permettez,
qui connaissons ces normes, c'est vous qui les connaissez. Oui. Par conséquent, nous les recensons.
Marie Savardiras,
les faire sauter.
Qu'est-ce que vous répondez à tout ce qui a été les propos qui ont été tenus sur le fond? Puis après, je voudrais qu'on prenne trois dossiers.
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont...
Oui, il y a beaucoup, c'est pour ça que je vous laisse...
Et justement, il y a beaucoup. Et ouais, si on veut une vision, encore une fois, il va falloir qu'on ait des choses très simples. Donc, je vais revenir sur ce que disait Jean-Philippe. Mais le premier problème que j'entends, c'est comment est-ce qu'on peut payer davantage les gens qui portent notre économie aujourd'hui, les valoriser davantage. Et je me permets de reprendre Monsieur Ruffin là-dessus. Mais comment on leur apporte de la joie? Aujourd'hui, moi, ce qui me heurte le plus, c'est que j'ai l'impression que les gens ne sont pas heureux en France. On a toutes les raisons d'être heureux. On est un des plus beaux pays du monde. Et on est un foutu d'être heureux. Travailler, c'est dur, mais on peut y trouver du sens, et je pense, j'ai espoir qu'on puisse le trouver dans tous les métiers. Donc la première chose, c'est de revaloriser ces personnes-là. Pardonnez-moi de nouveau, Monsieur Ruffin, mais vous parliez de petits patrons. Pour moi, il n'y a pas de petits patrons, il n'y a pas de petits métiers. Il y a que des... Toutes les personnes qui travaillent, elles se valent. Tous les patrons se valent, tous les entrepreneurs, enfin, tous les salariés aussi. Dire petit, finalement, ça les dévalorise, je trouve. Et on a plutôt envie de rassembler. Donc pour moi, le premier message, c'est déjà, est-ce qu'on arrive à trouver un moyen de rassembler tout le monde et de faire en sorte qu'on arrive à davantage communiquer entre politique et monde entrepreneurial? Est-ce qu'on arrive à créer des liens davantage entre les patrons et leurs salariés? Est-ce qu'on arrive à mieux les payer pour recréer de l'harmonie? Et aujourd'hui, je trouve que c'est ça la première chose qui manque. Si on a envie de construire et de mettre en place toutes les mesures dont vous discutiez, je pense qu'il va falloir qu'on ait davantage d'harmonie. Pour cette harmonie-là, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on puisse payer mieux les gens et qu'ils commencent à reprendre du sens dans leur travail.
Rapprocher le brut du net, c'est effectivement
le net du total chargé, que ce soit pas question, un vaste déverseur dans l'un, que ce soit là.
Juste sur la question petit patron, François Ruffin, c'est une expression que vous employez. Oui. Vous comprenez que ça, c'est un côté un peu péjoratif?
Je ne le perçois pas pour moi et pour, comme péjoratif, en tout cas, je ne le suis pas de cette manière-là. Mais oui, j'opère un distinguo et je même, vois même une stratégie des grands groupes et des grands patrons de venir. Comme c'était le cas sous l'Ancien Régime, on avait l'archevêque qui baignait dans le strup et la luxure et qui se venait se cacher devant derrière la vertu du petit curé de campagne. Eh bien, aujourd'hui, on a le grand patron qui se prend des stocks options et qui se paye en millions et qui vient se cacher derrière la vertu du patron de PME. Alors... Et vous dire qu'il y a quand même une différence entre les deux. On a d'un côté des firmes qui, aujourd'hui, payent moins d'impôts en proportion que les PME. On a des firmes qui captent davantage d'aides et on a des firmes qui, sur 10 ans, ont supprimé 200 000 emplois, tandis que de l'autre côté, on a des PME ETI qui touchent moins d'aides, qui payent davantage d'impôts et qui ont créé plus d'un million d'emplois. Donc là, on a une différence entre les deux et pour moi, une large captation de la plus-value par quelques sociétés de tête qui ont pu, l'année dernière, augmenter les dividendes pour leurs actionnaires de 10% et donc en laissant moins pour les salariés, en laissant moins pour l'investissement, mais en laissant moins aussi pour les entreprises sous-traitantes et sous-traitantes.
Il y a évidemment une différence, mais pour avoir été sous-traitante, ces gens-là, moi je suis heureuse qu'il y en ait en France, parce qu'ils nous nourrissent aussi, nous, petites PME, et il en faut. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'on n'a jamais réussi à s'enrichir en appauvrissant les riches. Je pense sincèrement qu'on a besoin de ces riches et que... plus il y en a et plus ils apporteront. En revanche, qu'on crée une harmonie, qu'on crée des règles pour faire en sorte que tous, que certains ne s'approprient pas la richesse de tous, oui. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là.
Mon souhait est un rééquilibrage, et en particulier sur les aides publiques. Je pense que les aides publiques qui ont fait l'objet d'un arrosage, et d'un arrosage tout à fait colossal depuis des décennies, en particulier le CICE, devrait faire l'objet d'un ciblage, et je demande que ça soit ciblé en deux directions. Sur l'industrie de manière générale, parce que elle est de fait en compétition à l'international, et que ça soit ciblé sur les PME. Pourquoi? Parce qu'on sait que le potentiel de création d'entreprises, il n'est pas dans les grands groupes existants, ou qui, s'ils touchent 10 000, 50 000, création même d'emploi. 1 million d'euros supplémentaires, ça fera pas la différence, tandis que sur une PME, ça peut faire la différence. Donc je demande, moi, à ce que, en particulier dans les aides publiques, ça fasse l'objet d'un ciblage. Quand je vois que sur les crédits impôts compétitivité emploi, les trois principaux bénéficiaires étaient au Champ, Casino et Carrefour, je dis tout ça n'a pas de sens.
Alors, je me permets, rebondir sur ce qu'a dit Marie, il y a une phrase que j'aime bien que disait mon papa, quand les gros poissons maigrissent, les petits poissons crèvent. Donc, en général, c'est pas parce que les gros s'appauvrissent que ça va enrichir ceux du dessous. Ça, c'est une certitude absolue. Un chef d'entreprise, je vous invite à me suivre une semaine, vous allez faire un reportage très intéressant, venez avec moi, vous verrez, c'est pas tout à fait la même histoire. Sur le reste, encore une fois, j'entends, il y a des enjeux, je ne sais pas si vous suivez peut-être Monsieur Retailleau, j'en ai aucune idée, j'ai pas suivi LR donc, ou le RN, qui potentiellement en passe d'être potentiellement élu, en tous les cas. Il y a plein de phrases dites, c'est quoi le sujet que vous voulez dire, qu'est-ce que vous êtes prêt à adresser au PME, si demain, Monsieur Retailleau, Monsieur Bardella, Madame Le Pen, Monsieur Ruffin, c'est quoi le sujet? Parce que là, il n'y a personne qui a compris, est-ce qu'il y a un entrepreneur qui part en disant, si vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez, alors c'est 20% de baisse sur le coût du travail jusqu'à 3000 euros brut. C'est plus de CSG-RDS pour les moins de 30 ans. Par contre, en contrepartie, c'est plus 18 mois de chômage, c'est 6 ou 8, parce que faut remettre les gens au travail. Parce que je vais pas encore une fois vous raconter ma vie, mais comme j'ai beaucoup de salariés, quand dans l'hôtellerie notamment, les gens s'arrêtent le 15 octobre, vous voulez qu'ils reviennent le 15 mars, mais ils veulent pas parce qu'ils sont trop bien à Bali, et qu'ils reviennent le 15 juin et qu'ils touchent chacun 1800 euros par mois x2, un couple formidable, ça c'est nos impôts, ça me dérange. C'est aussi l'impôt des petits salariés, c'est l'impôt de tout le monde.
Faut pas non plus.
Mais en fait, je vais vous expliquer quelque chose, Edwige. En fait, les Français, ils sont pas idiots. Faut arrêter de les prendre pour des débiles, ni des feignants. Ouais. En fait, ils ont compris qu'en travaillant moins, c'était plus ou prou la même chose que travailler. Donc ils comprennent tous. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, en bas de mon bureau, j'entends une jeune femme dire « Génial, j'ai réussi à négocier ma rupture conventionnelle et je reprendrai jamais avant septembre, quoi qu'il arrive. » Non, je veux juste terminer ce point. C'est un point fondamental des enjeux de demain. Comment remettre les gens au travail? Comment les faire aimer leur travail? Comment faire l'actionnariat salarié? Fondamental. Nous, dans toutes nos entreprises, nous intéressons les gens. Moi, je reçois un nombre de messages depuis qu'on a notre action. de gens qui ont envie, qui nous avaient raison. On a envie de bosser, mais par contre, ceux qui foutent rien, qui reviennent au bout de 7 mois et qui ont toujours un problème, ceux-là, ils nous dévalorisent notre travail. Comment
alors,
on fait
Christine Lavarde,
personne ne donne envie de suivre un projet. Donc donnez-nous envie.
Alors, Christine Lavarde, allez-y, et après...
Voilà, vous devriez suivre avec plus d'attention ce que font les LR, puisque en décembre 2025, il y a un document qui est...
On essaie de dépasser un tout petit peu l'équivalage politique.
Qui est sorti et qui s'appelle « Travail gagnant ». Et un des premiers axes, c'est mieux rémunérer le travail. Trois propositions. Seuil de cotisation à 1623 heures. Au-delà, plus aucune cotisation. Ce qui a été... qui se traduit par 3500 euros net de plus par an pour un salarié médian et 35% de coûts en moins pour l'employeur. Je poursuis et vous avez dit il faut développer l'actionnariat salarié. Et ben, il s'avère que j'ai été co-auteur d'une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat justement pour venir revaloriser l'actionnariat salarié. Donc aujourd'hui le texte il est dans la navette,
absolument.
Il sera peut-être un jour étudié à l'Assemblée nationale, mais si vous regardez bien, c'est un sujet, je suis 200% d'accord avec ce que vous dites. On essaie par petites touches d'instiller des changements, mais quand vous voyez que de l'autre côté...
Vous êtes pour l'actionnariat salarié, François Ruffin, ou pas?
Après, il faut une révolution, mais là, pour l'instant, c'est un programme présidentiel. C'est le programme présidentiel. Vous me dites, est-ce que vous avez fait des choses avant? J'essaie de vous dire que oui, on essaie de faire des choses avant avec les moyens qui sont à notre disposition. Et là où je vous rejoins, c'est que tous les sujets dont on parle aujourd'hui, ils doivent être débattus entre ceux qui seront candidats, de manière à ce que le président élu en avril 2027,
des gros sujets à
par son élection, il ait un mandat démocratique qui lui permette d'entreprendre de vraies réformes. Et dans ces vraies réformes, il y en aura forcément certaines qui auront aussi un impact négatif sur certains. Il faut avoir le courage de le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a la situation de nos finances publiques. C'est pas open bar. On pourra pas tout financer pour tout le monde partout. Donc il faudra, celui qui sera au lieu aura défini des priorités. J'espère qu'il aura eu l'honnêteté d'avoir un programme finançable et de dire comment il le finance. Je pense aussi qu'il faut dire qu'aujourd'hui, penser qu'on va équilibrer un programme politique par la lutte contre la fraude fiscale et la lutte contre la fraude sociale, c'est faux. Penser à dire qu'on va financer un programme politique en allant supprimer les agences et les opérateurs de l'État, c'est faux. Il faut dire qu'on supprime des politiques publiques. Voilà, je dis ça. Et ensuite, on pourra avoir un
débat. La confrontation quand même entre les entreprises et les politiques. C'est drôle que les politiques, vous êtes toujours dans votre campagne. Mais c'est normal, c'est votre métier. Oui, mais enfin, vous êtes LR et on a compris que vous étiez LR.
C'est pas une confrontation, c'est qu'aujourd'hui, il y a un chiffre qui est important, c'est qu'il y a 9% des Français qui font confiance dans leurs hommes politiques. Oui. Je le dis souvent, mais si nous, il y avait 9% des gens qui faisaient confiance dans ma manière de diriger mes entreprises, ça ferait longtemps que je serais parti. C'est un point clé, c'est qu'on a besoin de comprendre l'enjeu politique de 2027.
Eh bien, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais on va pas faire ça en trois quarts d'heure.
Bien, je réagis sur un point que vous avez évoqué, monsieur Cartier,
pas le programme,
avant de vous répondre. Non, mais je tiens juste à préciser, vous m'avez dit que on ne pouvait pas percevoir ce qui attendrait les PME, les entreprises, si le RN arrivait au pouvoir. C'est que vous ne m'avez pas écouté ou que vous n'avez pas été attentif, puisque je voulais précisément décliner. Ensuite,
deuxième élément, le coût du travail.
Deuxième élément, sur le coût du
travail. Répétez-le alors sur le coût du travail, je n'ai pas entendu. Alors répétez-le moi sur le coût du travail. Je vous demande de me dire ce que vous avez annoncé que je n'ai pas entendu sur le coût du travail.
J'espère que vous êtes plus conciliant avec vos salariés, que vous les laissez parler.
Renseignez-vous.
En l'occurrence, monsieur Cartier, laissez-moi répondre, je vous prie. D'abord, c'est pas nous qui avons renchéri le coût du travail. Ceux qui ont renchéri le coût du travail.
Mais on regarde demain.
Ce sont ceux qui ont supprimé des exonérations pour les apprentis et qui viennent de geler le barème des exonérations des cotisations patronales. On s'y oppose. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que pour justement regarder demain, nous, ce que nous avons proposé depuis 2022, nous sommes en train d'étudier d'autres propositions, mais je vous évoque celle-là, c'est de donner la possibilité aux employeurs qui le souhaitent, comme c'est votre cas, de pouvoir augmenter le salaire de ses salariés jusqu'à 10% en contrepartie d'exonération de charges patronales jusqu'à 3 fois le SMIC pour qu'il n'y ait pas trop d'abus. Mais si je peux me permettre, le problème est bien plus profond. Il faut remettre la France au travail. Parce que, de manière objective aujourd'hui, on est toujours en train de taxer la France qui travaille ou la France qui a travaillé ou qui veut travailler. Et la réalité, c'est qu'on se retrouve avec un taux d'emploi dans notre pays à 69%. 69%. Si on avait le même taux d'emploi que les Pays-Bas qui sont à plus de 80%, le déficit des retraites serait largement comblé et le système serait largement à l'équilibre. J'ajoute un dernier élément. Dans l'un des points que j'ai évoqué tout à l'heure, monsieur Cartier, j'ai évoqué brièvement
brièvement la nécessité de libérer les financements pour réindustrialiser le pays et soutenir l'économie réelle, l'innovation. Ça passe notamment par la création d'un fonds souverain.
Il nous reste 5 minutes.
Il permettrait la capitalisation collective des Français, autrement dit, qui le veulent, je le précise, parce qu'on va piocher l'épargne des
Alexandre,
gens. Autrement dit, sur la base du volontariat, Madame Chevrillon, les Français pourront capitaliser dans l'économie réelle, dans l'innovation, pour avoir de l'épargne long terme qui permettra justement...
Est-ce qu'on paye trop d'impôts en France ?
De constituer un revenu complémentaire pour leur retraite.
François Ruffin, c'est en tous les cas ce que disent les chefs d'entreprise, c'est que la fiscalité...
Pas simple avec les retraites à 62 ans.
Oui, non, pas simple.
Pas simple, simple. Si on fait une équation
pardonnez-moi, monsieur Cartier, vous voulez mieux payer vos salariés ? Très bien. Mais vous savez que l'âge effectif de départ à la retraite aujourd'hui en France, c'est 63 ans. En Allemagne, c'est 67 ans l'âge légal, mais l'âge effectif, c'est 63 ans et demi.
Oui.
Autrement dit, si vous décalez l'âge de départ à la retraite comme vous semblez vouloir le préconiser, vous prétendez vouloir mieux payer vos salariés aujourd'hui, mais ils seront moins bien payés demain lorsqu'ils seront à la retraite, parce qu'ils partiront avec une décote.
Non, et déjà avec le système actuel... On est pour la retraite par capitalisation, on a fait les calculs dans tous les sens, alors, ça marche 50
Cartier,
fois mieux.
Alors on va rester sur la retraite comme il reste 5 minutes
aujourd'hui,
pour la fiscalité.
Aujourd'hui, ça veut dire 20 milliards d'euros au moins de fiscalité supplémentaire sur les entreprises.
Alexandre Louvet.
Vous en avez besoin aujourd'hui.
François Ruffin, sur la question de la retraite, puisqu'ils sont partis sur la question de la retraite, moi je voulais absolument qu'on parle quand même de fiscalité, parce que je pense que c'est un sujet important pour les chefs d'entreprise. Et là, je crois qu'on n'a pas le temps. Restons sur la réforme des retraites. Vous, qu'est-ce que vous préconisez, quoi ?
Écoutez, moi, je vais vous dire plusieurs choses. D'abord que, dans le temps de crise qui est le nôtre, où ça n'est que successif, on a eu la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, la guerre en Ukraine, maintenant c'est le détroit d'Hormuz, et en vérité, par-dessus ça, on a une crise climatique qui est installée dans la durée, je pense que la discussion entre dirigeants politiques et dirigeants économiques doit être quel est le rôle de l'État là-dedans. Et le rôle de l'État, ça peut pas être juste reculer. Je pense qu'il y a la nécessité d'avoir un État stratège à l'intérieur de tout ça, un État qui aide par exemple sur les questions de formation, qui me paraît une question centrale quand on va avoir affaire face à la crise démographique, ça veut dire des pénuries de personnel potentiellement. Donc quelle est la stratégie qu'on met en place pour avoir des formations qui correspondent. Ça veut dire un État qui pense à l'usage du capital. Quand on a 2000 milliards d'assurance-vie dans notre pays, comment ça se fait qu'il n'y en a que 3 ou 4% qui sont orientés vers les PME? Et à mon sens, une discussion qui se limite à regarder les cotisations, et moi je suis prêt à avoir des grands...
Non mais parce que ça, justement, ça permet d'alléger souvent les cotisations qui peuvent peser sur les salaires, donc ça peut donner plus de pouvoir d'achat, mais il faut quand même financer ses dépenses sociales. Donc vous voyez, on rentre dans une machine,
Nous avons un État qui est devenu de plus en plus un État subvention aux entreprises, subvention à l'agriculture, subvention au logement, subvention à la prime d'activité, et qui en fait, du coup, prend beaucoup, mais non pas pour être un État action. Donc il faut se recentrer sur un État action. Mais un autre point, quand on parle de pouvoir d'achat, il y a deux manières de résoudre le problème. Il faut augmenter les salaires. Et je suis favorable à une indexation des salaires sur l'inflation qui fasse que quand il y a l'essence qui monte, mais derrière c'est l'alimentation qui monte, c'est à peu près tout qui monte, il en soit de même pour les salaires. J'entends que ça vous plaise pas. Mais le deuxième volet pour maintenir le pouvoir d'achat, en vérité la grande question qui devrait être la
nôtre,
et possiblement on a un chemin de rapprochement, c'est la question du logement. La question du logement, quand on parle pouvoir d'achat...
Là, François Ruffin, je suis désolé, j'aurais adoré qu'on puisse continuer, mais là, on est en direct.
Laissez-moi une minute. C'est incroyable que quand on prononce le mot logement, on soit interrompu, quand la question du pouvoir d'achat est centralement la question du logement, quand la question de la natalité, c'est la question du logement, et même quand la question de la mobilité professionnelle...
Je voulais rester sur des sujets qui... Parce que la natalité, je suis sûr que ça les concerne, les chefs d'entreprise, évidemment, mais c'est pas au cœur du sujet.
Si, voilà. Je vous dis, madame, que c'est au cœur du sujet, parce qu'il y a deux moyens d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Il y a un premier moyen, c'est de jouer sur la hausse des salaires, et du coup on voit les difficultés qui peuvent être les vôtres. Et il y a un deuxième moyen, c'est de peser sur les dépenses contraintes. Et la première des dépenses contraintes, c'est le logement. Le logement est toujours un nœud, c'est un kyste pour les Français. Oui. Parce que c'est un tiers dans la moyenne des Français, mais en vérité on est à la moitié, voire les deux tiers pour un certain nombre de personnes.
Enfin au terme, il faudrait que chacun arrive à me faire très, très rapidement, on me fait déjà des gros yeux, un mot de conclusion, un mot. Si vous aviez un message, c'est quoi? Un mot.
Tout simplement qu'au Rassemblement National, nous avons la conviction que la France a tous les atouts pour redevenir une puissance économique. Encore faut-il vouloir.
Pour réussir.
Encore faut-il travailler avec les chefs d'entreprise, qu'ils le veuillent, mais aussi les salariés.
Christine Lavarde.
En tout cas, nous y sommes prêts, nous le faisons.
Alors moi, j'aurais pas un mot, mais j'inviterai plutôt Monsieur Cartier à venir discuter avec moi dans le détail pour mettre en œuvre des propositions, parce que notamment sur cette question, la mise en œuvre de l'actionnariat salarié et du financement de retraite, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des choses à aller faire du côté des PME, parce qu'aujourd'hui, tous nos dispositifs sont conçus notamment pour des salariés qui sont fiscalisés. C'est là où il y a des incitations pour se tourner vers des dispositifs de capitalisation. Merci. Et il faut qu'on fasse entrer les entreprises dans la donne, parce que c'est ce qui va nous sauver.
Merci.
Et en tout cas, sauver notre système.
Vous avez déjà parlé, là, vous avez déjà parlé, quand même.
Marie. Je vais crier à la censure, hein, attention.
Oui, non, je crois que vous pourrez crier, mais j'ai pas mal de témoins, je pense. Allez-y.
Moi, j'en ai deux mots. J'en ai un qui est le principe de réalité, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se fixe un vrai principe de réalité. Il y a plein de choses qui seraient chouettes à faire, mais il y a plein de choses qui sont impossibles. Et en tant qu'entrepreneur, on joue avec un jeu de contraintes. Il faudrait que nos hommes politiques et nos femmes politiques fassent pareil. Et le second, c'est de pas trouver de bouc émissaire. J'ai l'impression qu'on cherche trop de bouc émissaire. Et nous, les premiers, la preuve, on a dit les politiques, et c'est pas bien, pardonnez-nous pour ça. Mais les entrepreneurs, les patrons, quels qu'ils soient, peuvent pas être les boucs émissaires permanents de tout ce qui va pas. Ah, il faudrait augmenter les charges, il faudrait ceci, il faudrait cela. On peut pas être les boucs émissaires permanents, ça serait pas sain pour notre économie non plus.
Jean-Philippe, alors vraiment un mot, parce que on est très rapide. Pas à la fin, François Ruffin, s'il vous plaît.
Encore une fois, on espère de tout cœur que les 35 ans de mauvaises décisions politiques vont évoluer dans le bon sens dans les 12 prochains mois, à commencer par 2027. Pour ceux que ça intéresse, j'invite Christine également, on a travaillé avec Jules, avec Marie, avec tout un certain nombre d'entrepreneurs, entrepreneuses, femmes et salariés impliqués sur 12 réformes économiques sur notre temps hors travail le soir qui s'appelle le pouvoir de l'action. Et on fera tout ce qu'on peut pour être écoutés parce que les chefs d'entreprise et les PME françaises vont pas très bien.
Le pouvoir
et il faut
de
juste
l'action.
Que le politique l'entende
merci
et les aide.
Beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Émission spéciale Cap PME sur BFM Business.